RMC.
Grand Plateau.
Salut à tous, et si finalement le cyclisme français n'allait pas aussi mal qu'on veut parfois bien dire de l'absence de victoire sur le Tour de France depuis près de 40 ans à la fréquence peu élevée du nombre d'apparitions du drapeau bleu, blanc, rouge sur le palmarès des 5 grands monuments ou encore l'incapacité des Français à gagner depuis 2007 sur les grandes courses d'une semaine, le bilan semble peu flatteur et avec le déclin de la génération des Thibaut Pinot, Julien Alaphilippe, Arnaud Démare et autres Nasser Boigny, les esprits chagrins ont pu un temps penser que le cyclisme français s'apprêtait à connaître une période bien sombre. Mais le début de saison semble pourtant prometteur. Il s'appelle Lenny Martinez, Paul Lapeyrat, Romain Grégoire, Axel Laurence, Kevin Vauclin ou encore Paul Magnier et ont tous d'une manière ou d'une autre animé la première partie d'année. Alors faut-il encore s'attendre à un très bel avenir pour tous ces jeunes coureurs et pour le vélo français en général? On se posera la question. Parmi les Français, l'un d'eux a brillé la semaine dernière sur les routes du Tour de Romandie. Il est plus confirmé, mais à 27 ans, il n'avait jamais encore lever les bras en World Tour. Et bien voilà la chose faite, le baroudeur, sprinter, on lui posera la question de savoir comment il se définit. De Décathlon à G2R, la mondiale d'Orient Godon, double vainqueur d'étape en Suisse, sera l'invité de Grand Plateau. Enfin, comment ne pas se projeter cette semaine sur le Tour d'Italie, premier des trois grands tours de l'année. Ça débute samedi avec une première étape dont l'arrivée sera jugée à Turin, ce Giro dont l'immense favori sera sans l'ombre d'un doute le petit cannibale de Komenda, le Slovène Tadej Pogacar. Et pour parler de tous ces sujets, j'accueille celui qui, j'en suis sûr, aura beaucoup de choses à dire aujourd'hui en tant qu'ancien sélectionneur de l'équipe de France sur route. J'ai nommé Siri Guimard. Salut le druide, comment ça va?
Eh ben, ça va très très bien, très très bien. On a vécu un beau petit tour de Romandie. On aura l'occasion d'en reparler, je crois.
Ah oui, absolument. On va en reparler dans quelques instants. Pour t'accompagner cette semaine, deux petits nouveaux dans Grand Plateau. Un inconditionnel de la bicyclette qui fait sa grande première. Donc le bonjour et la bienvenue à Pierre Couetchette à nos côtés. Salut à toi.
Salut à toi, bonjour à tous.
Prêt à rentrer dans le lard du druide?
Tout à fait.
Bon, et je crois que Kevin Morand connaît. Voilà, sur le Tour de France, il connaît bien le druide, mais c'est ta première aujourd'hui aussi dans Grand Plateau. Kevin, merci.
Salut Arnaud, salut à tous.
D'être avec nous, et on commence donc tout de suite par la très belle vitalité du vélo français en sprint en cycliste.
Un Français va terminer en deuxième position, ouais. Lui qui était déjà monté sur le podium en 2018, en troisième position, Romain Bardet, qui ne va pas célébrer, mais quand même, qui aura passé une sacrée journée aujourd'hui. Il aura été aux avant-postes de la course quasiment tout au long de la journée.
Un podium
magnifique, Pogacar, Bardet, Van Der Poel sur cette doyenne des classiques.
Regardez Benoît qui porte son effort,
c'est Benoît qui va gagner.
Benoît Cosnefroy qui va chercher la victoire. Et bien voilà, à nouveau une victoire française, à nouveau une victoire pour cette équipe Décathlon. À G2R, la mondiale, la victoire de Benoît Cosnefroy.
Le sprint qui est lancé avec Ines Schreling, avec Alex Aramburu, avec c'est Paul Lapeyrat qui est là toujours pour l'équipe Décathlon à G2R, la mondiale, qui va s'imposer. La victoire pour l'équipe Décathlon à G2R, la mondiale,
G2R,
incroyable
qui gagne.
Sur cette deuxième étape du Tour du Pays Basque. Où est-ce que Romain Grégoire va faire un retour incroyable? Romain Grégoire peut-être pour aller s'imposer. Romain Grégoire pour une deuxième victoire française. Une victoire de Romain Grégoire aujourd'hui au sprint dans les rues d'Amorebieta.
Godot qui est en tête pour l'instant. Est-ce que Bonnemont va réussir à le remonter? Godot va peut-être remporter cette étape. Godot, Barguil. Et bien finalement, c'est Dorian Godot qui remporte cette étape devant Warren Barguil. Venturini avec ses Godot qui est en train de revenir. Dorian Godot qui est en train de passer devant. Venturini qui ne sera pas vainqueur aujourd'hui. Dorian Godot toujours en tête. Dorian Godot poursuivi visiblement par
Consoni.
Non, finalement, Dorian Godot qui remporte une deuxième victoire d'étape. Victoire française pour cette dernière journée sur le Tour de Romandie.
Ça en fait des jolis moments, les amis, quand même, pour le vélo français depuis le début de la saison. Cyril, toi, c'est lequel que tu as préféré?
J'ai tous aimé. Quand on gagne, moi, j'aime. Après, il faut voir, bien sûr, quel est le niveau de l'épreuve lorsqu'on veut rentrer dans les analyses. Mais vous savez, ça fait toujours plaisir, même à un grand coureur, de gagner une petite course. Et à plus forte raison, pour un petit coureur, d'en gagner une grande.
Pierre?
Alors, moi, ce que j'ai préféré, c'est pas une victoire, c'est quand Paul Lapeyrat part en chasse-patate à l'Amstel, où il va pas loin du tout de rejoindre Pidcock et les gars devant, et puis il explose. C'était pas malin, en fait. C'était pas malin du tout, mais ça m'a plu.
C'était pas malin, mais il est revenu à quelques secondes, parce qu'il a comblé un trou d'une vingtaine de secondes, et puis finalement, il était quasiment revenu sur le bout avant.
Et il finit quand même cinquième, donc finalement, ça n'a pas bloqué ses chances au sprint dans son groupe. Mais ça m'a... Ça m'a mis de l'émotion.
Bon, en tout cas, ça fait un grand nombre de bons moments, Kevin, passés avec le vélo français. On a notamment entendu les belles promesses de la jeune génération française depuis le début de la saison, Kevin.
Oui, parmi les 36 victoires françaises référencées cette saison sur circuit international par le site de référence Pro Cycling Stat, on en doit beaucoup en effet à cette nouvelle génération. C'est Paul Magnier qui avait ouvert la saison fin janvier sur le trophéo Cesc Salines. Le sprinter de Soudal Quickstep, âgé de 20 ans, a récidivé sur une étape du Tour d'Oman en février aussi. Axel Lawrence a lui devancé Mats Pedersen, s'il vous plaît, sur une arrivée de l'étoile de Bessèges. Kevin Vauclin avait lui terminé troisième de cette étape, et le Normand de 23 ans d'Arkea BNB remporte le contre-la-montre final de l'étoile de Bessèges, termine meilleur jeune de cette épreuve du sud de la France. En février toujours, Lenny Martinez ouvre son palmarès, il lève les bras sur la Classique Var, puis sur le trophéo Laguiglia. Le coureur de 20 ans de la Groupama FDJ remporte aussi deux courses à deux jours d'intervalle en avril sur la Classique Grand Besançon, puis le Tour du Doubs. Il avait entre-temps terminé meilleur jeune du Tour de Catalogne, épreuve où Axel Lawrence, pour revenir au Breton de 23 ans, d'Alpecin de Kninck, avait lui remporté une étape. En mars, c'est au tour de Paul Lapeyra, 23 ans, chez Decathlon AG2R, de briller Classique Loire Atlantique Cholet-Aglo Tour, avant de remporter la deuxième étape du Tour du Pays Basque. Et c'est sur cette même épreuve que Romain Grégoire, le franc-comtois de 21 ans de la Groupama FDJ, remporte sa plus belle victoire jusque-là, sur la cinquième étape à Morebietia-Etchano. Résultat, grâce à tout cela, la France est aujourd'hui deuxième derrière la Belgique au ranking européen de l'UCI pour les coureurs de moins de 23 ans.
Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable quand on sait que la France, alors certes, était troisième en 2022 sur ce ranking des U23, mais avait un nombre de points bien moins important. Cyril, je voudrais juste, avant qu'on accueille Dorian Godon, qui lui ne fait pas vraiment partie de cette nouvelle génération, mais qui a pourtant ouvert son compteur en World Tour, je voudrais justement qu'on distingue un petit peu cette jeunesse. Est-ce qu'elle ne pousse pas un petit peu à les plus âgés, on va dire, à sublimer? On a vu Cosnefroy, on a vu Godon, on a vu Bardet, deuxième sur Liège-Bastogne-Liège. Est-ce qu'il n'y a pas finalement une forme de cercle vertueux avec tout ça?
Oui, on dit d'habitude plutôt vicieux, mais là c'est plutôt vertueux. Bien sûr que la victoire appelle la victoire. La victoire, elle rend jaloux, elle donne de l'envie. Si les autres gagnent, pourquoi pas moi? Et il y a toute une spirale qui se met en place. Et on est d'ailleurs dans cette spirale actuellement, parce que sur des petits détails où ça ne serait pas passé l'an dernier, eh bien cette année, ça se passe et on va chercher la gagne. C'est sûr que vous prenez, je fais souvent le parallèle par rapport au foot, un buteur qui ne cadre plus ou qui voit ses tirs arrêtés, il manque de confiance et pendant un certain temps, il ne marque plus de but. Il suffit qu'il en marque un ou deux et derrière, il va faire toute une série. Eh bien, on est dans cette même dynamique. Le mental est quelque chose de très important. Et quand la confiance est là et qu'on n'a plus peur de perdre, mais qu'on a envie de gagner, alors on découvre que certains coureurs ont peut-être des potentiels supérieurs à ce qu'on pouvait imaginer.
Et tu parlais d'un buteur. Et bien, ce qui est intéressant aussi, c'est que la France n'a pas qu'un Mbappé, on va dire, dans le vélo. Il y a une diversité de profils. Ça montre la profondeur du vivier, la profondeur de banc, comme on dirait, pour rester sur la métaphore footballistique. Et puis, il y a aussi cette concurrence, je pense, qui se crée entre Decathlon AG2R et la Groupama FDJ. C'est un peu normal. C'est les deux plus grosses cylindrées du vélo français, les deux plus gros budgets. Je crois qu'ils sont autour de 20-25 millions d'euros de budget chacun. Donc, c'est logique aussi que ces deux grosses cylindrées proposent cette concurrence-là, et ça alimente ce cercle vertueux-là.
Et c'est une très, très bonne chose. Pierre, tu voulais ajouter quelque chose ?
Oui, moi, ce qui m'étonne aussi, c'est le nombre de noms différents que vous avez cités sur ces victoires. Ce n'est pas porté par une seule personne, même si, effectivement, Paul Lapeyra a fait beaucoup, même si Romain Grégoire en a fait pas mal, même si Lenny Martinez lui aussi, c'est le nombre de coureurs qui ont gagné, qui ont fait forte impression. On parlera aussi à un moment de ceux qui n'ont pas du tout fait forte impression, parce que je pense que c'est aussi un élément important du débat.
Et avant ça, quand même, donc l'un des jolis symboles, même si encore une fois, il n'a pas moins de 23 ans, comme beaucoup de coureurs qu'on a pu citer depuis le début de cette émission, lui a dû attendre ses 27 ans pour enfin lever les bras en World Tour, même s'il l'avait déjà fait avant, hein, notamment sur la Flèche Brabançonne, et il est avec nous. Donc, grand plateau, bonjour Dorian Godon.
Bonjour à tous.
Et merci d'être avec nous. Coureur de l'équipe française Décathlon AG2R, la mondiale, donc vainqueur au sprint de deux étapes sur le Tour de Romandie. D'abord Dorian, comment tu te définis en tant que coureur? Parce que on voit que tu roules très bien, on voit que tu sprintes très bien, on t'a déjà vu barouder aussi par le passé, tu sais un petit peu tout faire.
Ouais, on va dire, je sais un peu tout faire, un peu rien faire. Je suis assez polyvalent et voilà, je sais pas si c'est une qualité, mais sur le vélo, enfin dans le sport cyclisme, on gagne pas souvent et voilà, c'est quand même mieux d'avoir une petite pointe de vitesse. Donc j'ai toujours bien travaillé cette pointe de vitesse à l'entraînement, mais voilà, je suis moyen sprinter et je passe très bien les bosses aussi. Et puis en chrono, les chronos courts et les prologues me réussissent souvent. Donc voilà, je suis un coureur plutôt polyvalent et puncher.
Raconte-nous un petit peu ton émotion d'avoir gagné au sprint deux fois cette semaine sur le Tour de Romandie. Il y en a une que peut-être que tu garderas plus en mémoire que l'autre.
Ouais, la première victoire, bah ça fait toujours plaisir. La première victoire de la saison, j'avais gagné au Giro del Veneto au mois d'octobre de la saison dernière. Voilà, toute l'équipe marchait super fort depuis le début de saison et donc ça me titillait de suivre les copains et de gagner aussi, d'apporter ma pierre à l'édifice pour apporter une 11e victoire à l'équipe. Et voilà, j'étais encore super bien épaulé par mes coéquipiers, Nicolas Prodhomme qui m'a super bien emmené au sprint jusqu'aux 500 mètres, alors que c'est un grimpeur. Donc voilà, tous les profils présents sur cette course ont apporté leur pierre à l'édifice. C'est ça qui est aussi beau, un grimpeur qui frotte avec, avec quelques sprinteurs. Donc voilà, tout le monde était au top sur cette course et voilà, ça fait deux victoires à la fin, c'est vraiment des victoires collectives.
Et Dorian, sur le deuxième sprint, tu pars tellement fort, on a l'impression qu'il peut vraiment rien t'arriver, alors qu'on pourrait penser que Consonni va remonter, mais tu as l'air tellement fort qu'il n'y arrive pas. Est-ce que le fait d'avoir gagné la première fois, ça a changé quelque chose dans ta tête, ou tu t'es dit c'est bon, je suis le plus fort, il n'y a pas de problème?
Ouais, bien sûr, j'avais vraiment rien à perdre, on n'a même pas pris forcément la course à notre compte. On voulait vraiment être offensif et même mettre quelqu'un dans l'échappée pour que ça soit une course vraiment dure. Donc ça a été vraiment dur avec la pluie. Au final, on arrive au sprint à 70, ça nous a arrangé au final. Et puis voilà, j'avais dit aux copains qui restaient, donc Clément Berthet et Nicolas Prodhomme, de vraiment faire l'effort au dernier moment et d'être placé en 2-3e position, même prendre le virage en tête et puis pas se poser de questions. Je sais que c'était un peu faux plat-montant et que j'étais capable, sur l'élan, de produire cet effort, des sprints longs. Et je ne me suis pas posé de questions jusqu'à la ligne d'arrivée et pas regardé derrière.
Cyril Guimard, une question pour Dorian Godon peut-être.
Oui, alors je parlais tout à l'heure du petit détail qui fait qu'on va gagner ou qu'on va perdre. Hier, avant le dernier virage, tu avais ton grimpeur qui t'emmenait le sprint. Et à un moment, tu t'engages à droite et lui, il te fait signe avec le coude de passer à gauche. Imaginons qu'un petit instant, il se déporte de 20 ou 30 centimètres de plus et peut-être qu'il n'y avait pas la victoire. Comment ça s'est passé au moment où toi, tu t'engages à droite alors qu'on va rentrer sur un virage à gauche?
Ouais, dans l'action, ça m'a pas paru. Je n'ai même pas remarqué, non. Je voulais vraiment aller à droite pour élargir le virage et prendre un maximum de vitesse pour avoir un maximum d'élan pour la dernière ligne droite. Ça m'a pas. Non, il n'y a rien de. Il s'est écarté à gauche au bon moment et c'était top.
Tu l'as dit hier, après ta victoire, enfin ta deuxième victoire du coup d'Orient, le vélo, c'est une histoire de spirale. Et je me souviens, Paul Lapeyra nous disait exactement la même chose après sa cinquième place sur l'Amstel Gold Race il y a 15 jours, où vraiment sa victoire autour du Pays Basque lui avait donné une confiance que peut-être il n'aurait pas eu, au point d'aller justement faire cet épisode où il a tenté de chercher la tête tout seul en chasse-patate sur l'Amstel Gold Race. C'est vraiment ça, il y a une spirale ultra positive chez Decathlon AG2R en ce moment?
Exactement. Déjà, on est une belle bande de copains. On s'est vraiment amusé toute la semaine et c'est aussi ça le vélo, des sourires, de la bonne humeur et tout le monde allait de l'avant. Et voilà, malgré le professionnalisme de l'équipe, on s'est vraiment bien amusé et vraiment c'était l'essentiel de la semaine. Après, j'ai pu conclure de la meilleure des manières. C'est sûr, c'est plus facile quand on marche, mais voilà. Travailler et courir dans la bonne humeur avec des gens qu'on apprécie, c'est tout de suite plus facile.
Alors nous, ce qui nous interpelle par rapport à l'année dernière, c'est que c'est à peu près les mêmes coureurs, c'est à peu près la même structure. Alors ça a changé de sponsor et ça a changé de vélo. Et les résultats, c'est pas dire le jour et la nuit, mais c'est quand même un début de saison exceptionnel. Quelle est la place du vélo? Quelle est la place de qu'est-ce qui a changé sinon dans le changement de sponsor?
Ouais, beaucoup de choses. Il y a une remise en question de l'équipe, aussi des coureurs, du staff. un management un peu différent. Et voilà, plus une équipe est beaucoup plus structurée, beaucoup plus professionnelle, des choses qui ont été mises en place service course. Et voilà, on a un des meilleurs vélos du marché qui va super vite. Donc voilà, juste on s'éclate sur les courses et on se fait plaisir. Pour aller chercher la victoire.
C'est le sponsor qui fait qu'il y a des choses qui ont changé au service course. Et est-ce que tu peux nous donner des exemples de choses, par exemple, qui font que voilà, des exemples concrets de choses qui font que ça marche très fort en ce début d'année?
Non, un peu tout. Il y a beaucoup plus de réunions, beaucoup plus de process d'entreprise. Après, nous, ça ne touche pas forcément en tant que coureur, mais voilà, au service course, c'est vraiment plus millimétré. On a plus accès aussi sur la performance, sur de la logistique et tout est plus millimétré. Et même après, ils ont mis plus de budget au niveau nutrition, on est plus suivi. Donc voilà, tout mis à bout, l'optimisation de la performance paye.
Dorian, finalement, on est sur ces gains marginaux qu'avait évoqué Richard Plugueux, notamment quand on lui demandait pourquoi la Jumbo-Visma réussissait tant. Parce que la Decathlon G2R est passée là-dedans aussi.
Oui, en partie, mais après, peut-être un moindre niveau. Là, c'est plus une question de, comme avait dit Cyril, une spirale un peu positive. Et voilà, chacun, avec ses qualités, donne le meilleur pour l'équipe. Et c'est surtout ça. En dehors des gains marginaux, je pense que l'aspect psychologique et mental dans le vélo est pas sous-estimé. Et on a des super vélos et tout le monde donne le meilleur de lui-même pour le leader désigné de la course. Et c'est ça qui fait aussi qu'on va dire qu'on gagne autant en ce moment.
On parlait beaucoup des jeunes en début d'émission. Est-ce que vous, ça vous pousse les entre guillemets moins jeunes à vous dépasser? On a vu toi, on a vu Benoît Cosnefroy sur la flèche Brabançonne. Il y a une émulation. Enfin, je veux dire, la jeunesse vous pousse comme ça à vous dépasser?
Bah, je pense déjà dans la tête, j'ai déjà moins de 23 ans, donc ça aide. Et puis après, ouais, c'est qu'une question d'âge, mais c'est vrai que j'arrive à maturité. Je sais que chaque saison, je progresse petit à petit. J'espère que ces deux victoires au Romandie me font progresser encore plus et pour aller chercher de belles choses. La saison est encore longue et voilà, j'espère pas m'arrêter là. C'est clair qu'on a des jeunes qui poussent dans l'équipe, des Paul Lapeyra, des Pierre Gautra, Jordan Labrosse. Il y a vraiment un super effectif et voilà, tout le monde bosse super bien et tout le monde a envie d'imiter le copain qui gagne. Donc c'est ça qui fait aussi l'émulation dans l'équipe.
Et du coup, les objectifs maintenant, ça va être quoi pour vous?
Et un peu de repos, et puis après j'enchaîne sur les boucles de la Mayenne, une course qui m'a un peu révélé. J'ai gagné deux fois le prologue des boucles de la Mayenne, donc retour aux sources, et j'enchaînerai sur le Critérium du Dauphiné et le Tour de France si tout va bien.
Alors le Tour de France d'ailleurs, ce sera ton deuxième, si je dis pas de bêtises, Dorian. Il me semble même avoir été à tes côtés sur la moto RMC lors d'une échappée dans la montée du col de Portet au-dessus de Saint-Lary. Ça va être quoi pour toi l'objectif au-delà de participer au Tour de France? T'aimerais maintenant te projeter sur une victoire d'étape potentiellement?
Oui, c'est ça. Tout d'abord, on y va avec des ambitions au général avec Félix Gall, qui a terminé, il me semble, 8e ou 7e l'année dernière du Tour. Donc ce serait déjà épauler Félix. Et puis après, dès qu'il y a une ouverture, aller gagner une étape, essentiellement par le biais de l'échappée.
Cyril Guimard, une question pour Dorian.
Oui. Là, on a beaucoup parlé effectivement du changement, on va dire globalement, de comportement au niveau de l'ensemble de l'équipe. Est-ce que le fait d'avoir changé un certain nombre d'habitudes, puisqu'on se rend bien compte qu'en termes de management, il y a des choses qui ont bougé, est-ce que c'est ça qui vous permet à tous, de façon générale, de vous remettre en cause et d'un seul coup de découvrir qu'on peut arriver à des résultats lorsque le management se modifie?
Oui, c'est sûr, il y a eu des nouvelles venues aussi dans l'équipe, pas mal de nouvelles têtes, donc ça a apporté du renouveau. Par exemple, avec Sébastien Joly, avec la présence de Sébastien Joly qui était le directeur sportif, on a mis des plans d'action un peu différents, plus offensif, plus relâché, moins de pression sur certaines courses. Et au final, on court avec le cœur et c'est ça qui nous réussit.
Eh bien, on te souhaite en tout cas tout le bonheur possible et imaginable sur le vélo d'Orion et on te souhaite très vite une belle victoire d'étape sur le Tour ou sur le Dauphiné. Merci d'avoir été avec nous dans Grand Plateau.
Merci à vous.
Et très belle continuation. Alors messieurs, on a parlé de Dorian Godon, il nous le disait, moi j'ai pas 27 ans dans ma tête, j'ai peut-être 23 ans plutôt dans ma tête, ou même moins de 23 ans. Tout simplement, quand on regardait, et d'ailleurs Kevin nous donnait cette statistique tout à l'heure, quand on regardait la jeunesse triomphante française, on se rend compte aujourd'hui qu'au classement UCI, la France en U23 est deuxième, mais vraiment talonne la Belgique. Quand on se projette 2 ans en arrière, on se rend compte que la France avait 2 fois moins de points, même si elle était encore là aussi sur le podium chez les jeunes. Cyril, c'est quand même la preuve qu'on avait un simple creux générationnel et on remonte la pente et j'ai même envie de dire encore plus. On a envie de penser qu'avec les Martinez, les Grégoire, les Lapeyrat, la France est même en avance sur les autres, non ?
Non, là, j'irai pas jusque-là.
Merci Cyril.
C'est adorable. Non, j'irai pas jusque-là. Elle n'est pas en retard, tout du moins. Et je préfère... Je préfère le dire de cette façon-là. Il y a tellement de choses qui se produisent ou qui peuvent se produire au fil des années. Ça peut très bien aussi le soufflet retomber. Mais ce qui est intéressant, et je le disais tout à l'heure, c'est qu'on n'a plus peur de perdre, on a envie de gagner. Et on a envie de gagner parce que ça gagne autour et parce qu'il y a cette forme de confiance qui est générée par cela. Ça veut dire aussi qu'on va être beaucoup plus constant dans tout ce qui est la préparation, on va dire physique, l'entraînement. Vous savez, entre sur des intensités, les mettre à 96 au lieu de les mettre à 98, à 98, ça change. Et il faut avoir aussi envie d'aller s'entraîner, de se faire mal, voire même très mal, même plus mal qu'en course. Pour ça, eh bien, il faut de la confiance, il faut de l'envie, il faut un mental qui soit renforcé par tout ce qui est autour de vous. Et c'est ça que je vois, moi, cette année. On avait pu commencer à le voir un petit peu l'an dernier. C'est qu'il y a des équipes françaises qui sont un peu moins fonctionnalisées. Et là, parce qu'on a quand même beaucoup de coureurs là au fil du temps, toujours battus, jamais trop dans le coup, qui finissent par prendre des habitudes, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, et puis on est parti dans une forme d'habitude qui ne permet plus de se survolter ou de se révolter. Et ça, c'est ce que on a aujourd'hui. Espérons que au niveau des teams, parce que c'est pas au niveau des coureurs que ça se passe dans un premier temps, ça se passe au-dessus, que vraiment cette dynamique, il faut la porter à bout de bras.
Alors, moi, je suis d'accord. On a pas mal de une grosse densité de jeunes coureurs, de bons coureurs. Mais pour moi, ça, c'est des bons coureurs. C'est pas des très bons coureurs encore. Et quand on regarde, alors c'est sûr, en Espagne, ils en ont moins. Ils en ont moins, mais par contre, Ayuso. C'est très fort.
Ouais, très, c'est très, très fort. Il n'a pas été. Oui, alors d'accord, il a fait podium sur son premier, sur sa première Volta il y a 19 ans, mais bon. Mais il peine à confirmer aussi.
Skiel Moseux, 23 ans, quand il va sur Liège, il dit sur le podium, il y aura Pogacar, il y aura Van der Poel et il y aura moi. Et je ne sais pas dans quel ordre. Bon, il s'est planté sur lui. Mais on est sur un niveau de performance d'un côté et d'envie et d'ambition de l'autre que les Français, pour moi, n'ont pas encore.
Après, Lenny Martinez a fait preuve quand même là sur ce début de saison d'une régularité, y compris sur des courses d'une semaine ou de plusieurs étapes. Alors, il est toujours dans le top 10 du général.
Le révélateur, c'est Lenny Martinez. Qu'est-ce qu'il va faire à la prochaine Volta ? Et Lenny Martinez, dans un environnement moins fonctionnarisé.
Mais alors moi, ça, je suis pas du tout d'accord moi avec votre histoire d'environnement fonctionnalisé, parce que je crois pas que Vingegaard ait été bien ailleurs que Jumbo, enfin que oui, Visma Lease Bike. Je crois pas que Van der Poel ait déjà quitté Alpecin Phoenix.
On dit pas qu'il faut partir, on dit que dans les équipes françaises.
Non, mais justement, les grands champions restent dans leurs équipes.
Oui, mais dans des équipes où on fait tout pour gagner.
Après, ces équipes françaises aussi, elles ont longtemps, ces dernières années, misé sur un grand leader, Pinot, Barguil pour Groupama et Arkea, et c'était des leaders un peu décevants. Donc derrière, tu parlais d'il y a deux ans, 2022, on a attendu quand même l'avant-dernier jour du Tour, qui est quand même la vitrine pour le cyclisme français, pour avoir une victoire d'étape française. C'était Christophe Laporte qui avait eu un bon de sortie, enfin en tout cas la carte blanche de Wout van Aert pour aller gagner cette étape. Donc c'était presque un miracle qu'on ait quand même cette victoire-là. Donc,
c'est intéressant ce que tu dis, Kevin, je trouve, par rapport au fait que c'est vrai que pendant très longtemps, chez AG2R la mondiale à l'époque, il n'y avait que Romain Bardet. Chez Groupama FDJ, il n'y avait que Thibaut Pinot. Là, quand on voit une équipe, par exemple, comme UAE, qui certes a Tadej Pogacar, mais elle forme petit à petit d'autres potentiels grands champions, voilà, à devenir les champions de demain. Je pense aux Suisses Yann Christen, on a vu Isaac Del Toro également, qui a été très bon sur le Tour des Asturies. On a évidemment Marc Hirschi, voilà, qui a été recruté il y a plusieurs années. Mais Cyril, il y a vraiment ce côté dans ces équipes-là de vouloir directement penser à la suite, alors qu'on a peut-être même déjà l'un des plus grands coureurs de l'histoire dans son effectif. C'était pas le cas pour Groupama FDJ, ou c'était peut-être moins le cas.
Oui, c'est vrai, les choses évoluent, mais elles évoluent très vite. Hein. Moi, je me suis amusé à regarder là, tous les classements. La France, au niveau des moins de 23, oui, ok, on est deuxième ou troisième. Quand on prend l'ensemble des points par nation, et là, en prenant tout le monde, on est septième. Et oui. On a perdu deux places.
Oui, oui, oui.
C'est pour ça qu'il faut bien 2020. Regarder.
Oui, non, mais là, parce que là, on parle précisément de la jeunesse, Cyril.
Oui, non, mais, je voudrais bien pouvoir terminer. Dire qu'il faut se méfier. Il faut se méfier des choses et les regarder avec beaucoup d'objectivité. On a des jeunes qui marchent bien, mais si vous mettez Ayuso, Del Toro, Morgado, qui sont des coureurs de 19 et 20 ans, Ayuso, il va arriver à 21 ans, Christen, il en a 19, on a en dehors de la France des coureurs qui sont plus forts que les nôtres aujourd'hui, de nos jeunes. Il y a juste Martinez qui apparaît comme
Ayuso
quelqu'un
et Martinez,
qui peut faire que...
Il y a 25 secondes d'écart hein, sur le Tour de Romandie. Hein, c'est pas non,
non
plus,
mais attends, faut pas regarder... Que... Non, attends. Mais non, c'est pas comme ça qu'on regarde.
C'est pas comme ça qu'on regarde. Non, moi, c'est comme ça que je regarde là dans l'absolu, dans le résultat brut. Je suis désolé.
Oui,
mais
moi, c'est pas comme ça que je regarde
Juan
les choses.
Ayuso, il a pas non plus un palmarès incroyable au regard de ce qu'il avait fait sur la Vuelta en 2022.
Ah ben moi, je voudrais bien avoir le palmarès Ayuso. Hein.
Oui, oui. Bah tu l'as, je pense.
Il n'y a pas un Français qui l'a. Oui, non, Del Toro, il arrive, il s'est baladé l'an dernier sur le Tour de l'Avenir, et là, il continue de se balader, il a 19 ans, quoi. Donc, non, faut bien regarder les choses, et si on regarde bien les points, cette année, regardez, sur l'année civile, le Français qui a marqué le plus de points, c'est Cosnefroy. Donc, c'est même pas Martinez. C'est Cosnefroy, il est 16e. Martinez, il est 17e, il est à 9 points. Voilà. Et après, on a Bardet. Bardet qui a dû prendre 600 points rien qu'à Liège-Bastogne-Liège. Et après, on a gagné une grande partie des courses qu'on a gagnées étaient des classes 1. C'était pas des World Tours. La World Tour, on prend Liège-Bastogne. Ça doit être 800 points au premier, 600 au deuxième. Et Bardet a marqué 600 points. Et il arrive troisième français maintenant. Comme quoi, je dis, les vieux volcans qu'on croyait éteints, il s'est réveillé, notre Bardet. Mais c'est très, très bien, avec beaucoup d'émotion en plus à l'arrivée. Mais regardons bien les choses telles qu'elles sont. Vauclin, il est 33e. Donc, on n'est pas en avance sur les autres. On a gagné, oui, effectivement, une douzaine de courses, mais sur la douzaine, je crois qu'il n'y en a que 4 en World Tour.
Juste pour terminer là-dessus, est-ce que quand Marc Madiot, par exemple, le manager de la Groupama FDJ, que lui, il ne souhaite pas recruter Julien Alaphilippe parce que ça ne rentre pas, on sait que Julien Alaphilippe est en fin de contrat chez Zola Quickstep, qu'a priori, il ne prolongera pas chez Patrick Lefebvre. Est-ce que finalement, on n'est pas dans cette nouvelle politique aussi des formations françaises, de vraiment miser sur sa jeunesse et d'essayer d'avoir une jeunesse triomphante plutôt qu'un gros nom.
Ouais. Sauf une formation quand même.
Sauf une formation, tu penses à qui tu penses à Total
voilà,
à
une philosophie
Energy,
un peu
c'est
différente,
vrai qu'elle est recrutée et des résultats un peu différents. Ouais. Pierre, je t'en prie.
Non, mais
Oui, mais qui sont fait allumer par le feu vert.
Voilà. Marc Madiot, il a vu ce qui allait se passer, ce qui était en train de se passer dans le cyclisme, c'est-à-dire que des coureurs de 19 ans, de 20 ans étaient compétitifs au plus haut niveau, et que c'est sur ces couleurs-là qu'il fallait miser. Il l'a fait depuis 2 ans. Il s'est séparé d'un certain nombre de personnes pour ça, justement. Il l'a assumé. Donc je comprends qu'il... Et en plus, ça lui a donné raison, puisque Grégoire et Martinez, depuis un an et demi, ils portent son équipe, hein, mine de rien.
Oui, vous pouvez ajouter Pitti. Hein.
Et Pitti, Pitti qui porte son équipe dans la course, pas vraiment dans les résultats encore complètement, parce que c'est quand même la.
C'est du très solide.
C'est la campagne de classique la moins payée de l'histoire, je pense, vu le nombre d'efforts qu'il a fait et les résultats à la fin. Bon, c'est.
Oui, mais il a pas 30 ans.
Mais voilà, il y a beaucoup de promesses chez Pitti. Après, la question, c'est effectivement comment on les garde.
Ouais.
Alors ça, c'est la question que sur le mur devant lequel s'est heurté
Marc Madiot.
Comment on les garde, comment on les fait grandir, parce que Cyril dit comme moi, c'est pas le top niveau de la jeune génération non plus, et donc comment est-ce qu'on leur fait passer, si on peut, ce cap là, et ensuite mais d'où Julian Alaphilippe, c'est normal de pas le prendre.
Juste pour conclure là-dessus, Cyril, puisqu'on parle de comment faire passer un cap à cette jeune génération, prenons donc l'emblème de cette jeune génération, Lenny Martinez, qui va très certainement, en tout cas, selon les informations qu'on a pu avoir, partir chez Bahrain Victorious. Alors, c'est une bonne ou une mauvaise chose ?
Tu sais, on est rentré dans un nouveau système. Il va falloir s'adapter. Il va falloir qu'on l'accepte. De toute façon, on n'aura pas le cas. On a pris le chemin du foot.
Avec des transferts,
c'est ça ? Oui, mais alors, sans évoquer ce que va être...
Moi, je pense que c'est une très bonne chose. Voilà. Enfin, c'est en tout cas un bon choix qui se défend, pas uniquement pour des raisons financières, mais qui se défend aussi pour des raisons sportives, parce qu'il peut avoir toute une équipe autour de lui, parce qu'il est, il va être programmé pour être face aux meilleurs et dans cette... face aux favoris sur les grands tours, et que s'il semble de le faire, c'est le choix qu'il faut faire, plutôt que d'être dans une équipe française où il va être devoir, on va lui dire le Tour de France, et puis il y aura Gaudu, et puis il y aura machin, et puis au final, il sera beaucoup moins libre.
On peut juste regretter peut-être le choix de l'équipe qui n'est pas la plus appréciée, même peut-être assez décriée dans le peloton, quoi.
Bien, on verra ça pour Lenny Martinez qui disputera donc la Vuelta en fin de saison, son deuxième grand tour après le Tour d'Espagne déjà l'an passé, ce qui nous amène au premier de tous les grands tours de la saison, le Tour d'Italie. C'est l'heure de parler des favoris. On va le faire rapide, il y a 6 étapes pour les sprinteurs, 2 contre la montre, 6 étapes de montagne, le reste, voilà, c'est des étapes au sort plus incertain entre baroudeurs et sprinteurs costauds. Il y a quand même un immense favori, messieurs, pour le classement général, Tadej Pogacar qui peut le battre, Pierre.
Personne.
Quelqu'un peut-il le battre ?
Non.
Ineos peut-être.
Mais... Ineos peut-être. Il y aura notamment Geraint Thomas, voilà, pour Ineos. Cyril ?
Ben, déjà, son plus grand adversaire, c'est lui. Faut pas qu'il parte un petit peu trop assuré de gagner et qu'il se la joue un petit peu. Il y a toujours des surprises. Vous avez toujours le problème des dangers représentés par la compétition cycliste dans son intégralité. Mais je pense que aujourd'hui, il est difficile de dire qu'un coureur peut le battre.
Bon, en tout cas, quand on regarde un petit peu le plateau des favoris, on a O'Connor, on a Dani Felipe Martinez, si on prend les jeunes, puisqu'on en parlait, on a Plap qui s'était montré notamment sur Paris-Nice, mais je suis pas sûr qu'on puisse vraiment faire de lui un favori. Uyttebroeks,
c'est après son transfert de l'hiver.
Voilà, et pour l'instant, Uyttebroeks fait partie de cette jeunesse qui, je trouve, moi personnellement, peine un petit peu à confirmer au plus haut niveau. Enfin, je sais pas, Pierre, ce que t'en penses.
C'est alors là, c'est vraiment lui son test. C'est dimanche, c'est samedi, parce que pour le coup, il se retrouve avec une équipe alors qui est pas vraiment faite pour lui, parce que il y a Olaf Koy,
Christophe Laporte. J'aurais dû avoir Van Aert.
donc pas forcément des gens sur lesquels il va pouvoir s'appuyer dans la haute montagne. Après, depuis le temps qu'il le réclame, il faut qu'il soit au rendez-vous.
Bah là, ça sera le grand test. Tiens, moi, je mets une petite pièce sur Romain Bardet, justement, puisqu'on parle des favoris. Je sais pas ce que t'en penses, Kevin. Pour le podium, il avait fait le Giro il y a quelques années. Malheureusement, il avait dû abandonner à mi-parcours. Il était très, très bien placé. C'était l'année où, souvenez-vous...
Il marchait même très bien.
Marchait même très, très bien. Il était peut-être en route vers la victoire sur le Giro. Je sais pas ce que vous en pensez.
Oui, on l'a vu sur un jour. Après, il faut voir sur les 3 semaines après... Romain Bardet, sa grande force, c'est la régularité quand même sur tous les grands tours, les top 10, tout ça. Donc évidemment, surtout là, le top 10 va être très ouvert quand même, vu le plateau. D'ailleurs, RCS doit quand même faire assez grise mine l'année où le Tour de France part d'Italie avec un duel 3 ou 4 étoiles annoncé. Eux, ils se retrouvent avec un plateau bon, un peu décevant, avec un ultra grand favori. C'est pas évident pour eux là cette année.
Oui, après l'année dernière, ils avaient un ultra grand favori avec Evenepoel, et puis il n'était pas à l'arrivée. Ils ont eu un final exceptionnel sur un contre-la-montre en montée qui s'est joué à 15 secondes. Donc c'est sûr que c'est compliqué de... Là, comme ça, c'est écrit, Pogacar va gagner avec 10 minutes d'avance. Maintenant, on sait tous que ça ne va pas se passer comme ça. Je ne sais pas quelle météo il va faire, mais l'année dernière, ça avait joué un rôle.
C'est toujours compliqué
énorme.
La météo sur le Giro. Hein. Voilà. Il y a souvent des étapes qui sont un petit peu
croquées. Et la lutte derrière Pogacar, pour le coup, est complètement indécise. Mmh. Parce qu'il y a énormément de... Soit des promesses, soit des revanchards, soit des types qu'on n'a pas vu de la saison comme Martinez. Pour moi, c'est assez ouvert. Une fois qu'on a laissé de côté le cas Pogacar.
Bon, mais voilà, on va se battre pour le podium, on va se battre pour les étapes aussi. Je vous en
cite quelques-uns. Oui, mais il y a un coureur dont il faudra suivre. C'est la révélation du Tour de Romandie, Lipovic.
Absolument, absolument. Alors tu vois, je l'avais noté sur ma feuille, mais je ne l'ai pas cité parce que je pensais que tu allais m'engueuler, comme d'habitude. Mais effectivement, il faudra le suivre. On suivra aussi pour les étapes Guirmay, Merlière, Milan, Iwan, Olaf Koch, Christophe Laporte, Kaden Groves. Juste un tout petit mot sur Alaphilippe. Il aimerait regagner au plus haut niveau, messieurs. C'est oui, c'est non sur ce Giro.
Moi, je pense.
Une étape, je parle, évidemment.
Oui, bien sûr. Sur ce que j'ai vu autour de Romandie, je trouve qu'il s'est amélioré tous les jours. Il fait un beau contre-la-montre sans véritablement se battre, avec de l'agressivité comme il avait l'habitude de le faire. Il a fait un très très bon boulot qui s'est pas vu pour son leader qui termine quatrième. Au niveau du mental, ça se dégraine pas s'il n'y a pas des déclarations à droite à gauche et qui reste dans ce que j'ai vu en Romandie, il va faire un très bon Giro.
Pierre, en un mot.
J'espère pour lui, mais j'y crois pas du tout.
C'est le coup d'éclat qu'on attend.
Oui. Bon, voilà. Moi, si je mets une petite pièce, je dis qu'il va gagner une étape. Ou il va pas être loin de gagner une étape, Julien Alaphilippe. On verra ça donc dès ce week-end avec samedi, une étape au final. Déjà un certain entre Veneria Real et Turin, et le lendemain, une belle étape de montagne déjà entre San Francesco al Campo et le Sanctuaire d'Europa, 25 ans. Allez voir si vous pouvez sur Internet les images, 25 ans après une victoire rocambolesque en rose de Marco Pantani. C'était sur le Giro 1999. D'ici là, très belle semaine à tous. Ciao, ciao.